D'école du dimanche, les monitrices profitent aussi du culte. Il faut rendre grâce pour tout ce qu'elles font et souvent, surtout à la période de Noël, elles n'ont pas pu participer au culte. Mais comme il y a beaucoup d'enfants, donc on organise une garderie. Y a-t-il un ou une volontaire? C'est important de dire un ou une. Voilà, c'est la mixité, c'est le partage. Hein, pour la garderie, voilà. Donc, s'il y a un ou une volontaire pour la garderie, ce serait une bonne et excellente chose. Alors, nous continuons nos lectures dans Marc. C'est moi qui fais deux choses en même temps dans ma tête. Dans l'évangile de Marc. Voilà, donc les textes de la prédication sont affichés. Et donc, je vous propose, on va lire tout à l'heure, au cours de la prédication, on va lire le début du chapitre 6, mais pas tout de suite. Et dans ce début du chapitre 6, on voit qu'il y a un décalage par rapport à Noël. Ce début du chapitre 6 de Marc, hein, qu'on va lire tout à l'heure, nous éloigne de façon brutale des fêtes de Noël, hein, et de l'arrivée de Jésus dans ce monde. Hein. Jésus est né à Bethléem, il est parti en Égypte, ensuite il est retourné à Jérusalem. Il a vécu là 30 ans, hein, de façon obscure, hein. Et puis il a commencé son ministère et quand il revient à Nazareth, hein, eh bien on se trouve en face d'un épisode en Marc 6, un épisode douloureux de la vie de Jésus, hein, très loin de Noël, puisqu'il est rejeté, hein, des gens auprès desquels il a grandi, au milieu desquels il a grandi, hein, pourtant. Mais avant de venir à ce passage de Marc 6, 1 à 6, on va lire ensemble Matthieu 2, 13 à 23, où on parle déjà de Nazareth. C'est au début de l'évangile de Matthieu. On parle de Nazareth d'une façon détournée, hein, puisqu'on va dire de Jésus qu'il sera appelé, qu'il retourne à Jérusalem, qu'il va à Jérusalem. Conformément au prophète, il sera appelé Nazaréen. Alors Matthieu, chapitre 2, 13 à 23. Après leur départ, le départ des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva donc, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Et quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer les enfants de 2 ans et au-dessous, hein, qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il avait fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été aussi annoncé par le prophète Jérémie, cette fois. Une voix se fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, Hérode le Grand, donc un ange du Seigneur, apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi ». Prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Et Joseph se leva. Il prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Achéléus régnait sur la Judée, donc là où se trouve Bethléem, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Le Seigneur éclaire pour nous sa sainte parole. Amen. Alors, on va dire que, avec ce texte de Matthieu 2, on a d'abord une consonance prophétique. On peut appeler ça comme ça. Ce n'est pas directement une prophétie. Mais on peut appeler ça une consonance prophétique, tout en habitant. Donc, au nord du pays, Marie et Joseph avaient des liens avec le sud. et il descendait du roi David. Et Joseph donc venait de Bethléem et sa famille, pour raison de travail, hein, comme ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui, eh bien, est allé chercher du travail dans le nord. Et donc cette partie de la famille de David s'était établie à Nazareth. Donc ils avaient des liens avec, ils descendaient du roi David comme beaucoup d'autres. Hein, et ils considéraient Bethléem comme leur village ancestral. Ils avaient de la parenté dans la région de Bethléem. Jésus, on le sait, est né à Bethléem. Mais il n'est jamais appelé Jésus de Bethléem, Jésus le Bethléemite, ou il n'est jamais appelé non plus l'homme de la Judée. Hein. Ou bien il est appelé, mais par contre il est appelé le Galiléen. Il est appelé Jésus de Nazareth. Et c'est ce que Pilate écrira sur la croix, Inri, Ineri en latin, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth. Et donc on peut se demander si c'est significatif, si ça a un sens précis. Est-ce que ça a de l'importance? Eh bien, pour Matthieu, ça a de l'importance, parce qu'on l'a lu à la fin du texte tout à l'heure. Matthieu termine en disant « Et ainsi s'accomplit cette parole des prophètes, on l'appellera Nazaréen. » Donc, Matthieu, donne à son évangile une optique d'évangélisation des Juifs. Et donc, il cite beaucoup de textes de l'Ancien Testament, des prophètes qui se sont accomplis avec la venue de Jésus. Et donc, il cite aussi ce texte. Il parle de cet accomplissement-là. Et il dit, et donc, on a un problème avec ça. Parce qu'il n'y a aucun texte des prophètes, aucun texte de l'Ancien Testament qui dit texto, on l'appellera Nazaréen ou on l'appellera le Nazaréen. Et quand des commentateurs modernes essayent de voir à quoi pourrait correspondre cette parole des prophètes, on a le choix, paraît-il, entre 5 options différentes. Je laisse, j'en laisse 4, j'en prends une, qui souligne que le Messie à venir est parfois appelé Netzer. Alors en hébreu, en araméen, Nazaréen, Netzer, c'est presque pareil. Et donc, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs textes qui parlent du Messie comme le Netzer, c'est-à-dire le rameau, la branche, le rejeton. Et le texte qu'on aime bien citer, c'est Ésaïe 11:1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton, Netzer, de ses racines va fructifier. Donc, dans ce texte d'Ésaïe, vraiment qui appartient à cette partie d'Ésaïe où on annonce la venue du Messie, la naissance du Messie, Ésaïe 7, la Vierge sera enceinte, Ésaïe 11, eh bien, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. Donc, dans ce texte, il est dit que c'est un rejeton, une branche, un rameau qui sort du tronc d'Ésaïe. Donc, Ésaïe, c'est le père de David. Il est appelé Jessé, aussi dans notre tradition. Et donc, ce texte dit que un rejeton, un Messie, qui sera le rejeton de la famille de David, va naître un jour. Un rejeton sortira de la famille de David. Pourquoi un rejeton? Parce qu'il faut imaginer un arbre qui a été coupé. L'arbre de la descendance de David a été coupé. Les rois étaient de plus en plus mauvais. Et il y a eu la déportation à Babylone, et quand les Israélites sont revenus de Babylone, il n'y a plus de royauté. Il n'y a plus de royauté en Israël, il n'y avait plus d'État d'Israël indépendant. Il n'y a plus jamais eu de roi. À partir du retour d'exil, plus de roi de la descendance de David. Donc on peut dire que le tronc était coupé, comme on en voit dans la campagne, il y avait une souche. Mais dans le vieux tronc, il était vieux, il y a encore de la vie. Il y aura encore de la vie, dit Ésaïe. Tôt ou tard, un rejeton va pousser, va repousser. Et donc, il y a le Messie, sera un descendant de la dynastie de David qui va naître bien après qu'il n'y ait plus de roi en Israël. Et donc, il y a un jeu de mots entre le mot « rameau », annoncé, un rameau sortira d'Ésaïe, et puis la ville de Nazareth qui veut dire rameau aussi. qui a la même consonance. Donc le rameau annoncé vient de la ville de Rameau. Hein. Le rejeton annoncé vient de la ville de Rejeton. Voilà. C'est un peu comme ça en hébreu. Hein. Donc il faut avouer, ce genre de jeu de mots, eh bien on n'est pas habitué. Hein. Ce genre de jeu de mots hébreux sont un peu difficiles à comprendre aujourd'hui avec notre mentalité moderne, 1 plus 2, etc. Mais ça parlait hein, aux orientaux, ça parlait aux juifs de l'époque, ça parle toujours hein, à une certaine mentalité hein, qui base beaucoup de choses sur les jeux de mots. Et donc Dieu a utilisé ça hein, pour confirmer la venue du Messie. Alors j'aimerais explorer d'autres aspects de la question, hein, peut-être plus intéressants. Hein. Jésus est de Nazareth, et ça a de l'importance pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça donne un enracinement humain à Jésus. Jésus a fait le choix hein, de s'incarner et il a fait le choix d'une identité précise. Il est devenu homme, celui qui est la parole de Dieu depuis toujours est devenu homme et il a vécu parmi nous, dit l'évangile de Jean. Donc Jésus est devenu homme. Et un homme a une identité. Nous avons tous une identité en tant qu'humain. Donc si Jésus est vraiment homme, il a une identité. Il n'était pas possible que Jésus vienne sur Terre comme une sorte de gentil robot. Hein, vous voyez comme on en voit à la télé, hein, avec de grands yeux sympathiques, tout ronds, là, qui tournent, avec un visage mi-homme, mi-femme, hein, et qui parle toutes les langues de l'univers. Hein. Non, ce n'était pas possible qu'il soit un robot. Hein. Il devait devenir un véritable être humain. Et pour devenir un véritable être humain, il devait devenir soit un homme, soit une femme. Il devait appartenir à une famille précise. Il devait appartenir à une ville précise. Une ville de naissance précise. Une ville d'adoption précise. Une région qui serait la sienne. Dans un pays qui serait le sien. À une époque précise. Et donc, parler une langue ou deux ou trois, comme Jésus, certainement, précise également. Donc, l'incarnation, le fait de devenir un être humain, impliquait de devenir un être humain spécifique, hein. Pas un modèle universel, hein, mais un modèle unique. Et c'est ce qui donne une force incroyable au témoignage des apôtres. En Jean chapitre 1, ils disent « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils envoyé par le Père, du Fils unique envoyé par le Père. » Alors qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, qu'il soit né d'un homme ne signifie pas qu'il n'aime pas les femmes. Qu'il soit né juif ne signifie pas qu'il n'aime pas les Français ou les Camerounais. Hein, on est d'accord. Qu'il soit né de Nazareth ne signifie pas que Rosny-sous-Bois n'est pas concerné, hein, ni Bondy, ni etc. S'incarner dans une identité spécifique, précise, c'est un peu paradoxal, mais ça signifie l'amour pour toute l'humanité. Il fallait qu'il s'incarne dans une identité spécifique pour exprimer son amour pour toute l'humanité, pour l'humanité réelle, hein, dans son immense diversité. Et la Bible dit que Jésus a grandi à Nazareth en étant soumis à ses parents. C'est ce qu'on voit en Luc 2, 52. Et comme n'importe quel enfant, il grandissait, il progressait en sagesse, il se rendait toujours agréable à Dieu et aux hommes. C'est tout ce que nous dit la Bible, hein, de ce qui s'est passé à Nazareth. Hein. Et bien sûr, à 12 ans, il est monté à Pâques avec ses parents. Et, bon. Mais à part ça, hein, rien n'est dit. Hein. C'est tout ce qu'on aimerait en savoir un peu plus. Hein. L'homme étant curieux, il a essayé d'inventer là où il y avait des vides. Hein. Alors nous n'allons pas inventer, nous n'allons pas faire, nous n'allons pas nourrir des soi-disant évangiles, hein, apocryphes, hein, gnostiques, qui datent du 2e, du 3e siècle, hein, et qui ont cherché un enfant Jésus, pas comme les autres, hein, faisant des miracles bizarres et gratuits hein, tout le temps, hein, pour épater ses petits camarades. Non, c'est pas comme ça que les choses sont passées. Il a été un enfant tout à fait ordinaire, il a grandi de façon tout à fait ordinaire, dans un village tout à fait ordinaire, Nazareth. Nous n'irons pas au-delà de ce que nous disent les Écritures. Pourtant, il y a bien donc ce passage de Marc 6, avec ses parallèles, qui nous donne maintenant quelques éléments de plus. C'est au début du ministère public du Christ. Il a appelé ses premiers disciples, il a enseigné à Capernaum. il a fait de nombreux miracles, mais quand il revient chez lui à Nazareth, bon, il est déjà venu avant le début de son ministère, si on peut dire, mais là, quand il revient après avoir commencé son ministère, les gens n'arrivent pas à croire en lui. Ils le connaissent trop bien pour croire en lui, soi-disant. Ils ne veulent pas imaginer, ils ne peuvent pas imaginer que ce jeune homme qui a grandi chez eux soit autre chose que ce qu'ils ont toujours connu. N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas le fils du charpentier, dit Matthieu, et n'est-ce pas le charpentier, dit Marc ? Alors on va relire le passage. Marc 6, 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Sa patrie, donc, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Ses disciples le suivirent, et quand le sabbat, le jour du repos, fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : « Mais d'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude, de Simon ? » Quatre frères, et ses sœurs, au moins deux, donc ne sont-elles pas parmi nous, elles aussi ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison, et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains quand même à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, et Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Donc, ce texte nous dit qu'il était charpentier. Donc, en français, on distingue entre le charpentier, le menuisier et l'ébéniste, au moins. Hein. Et donc, pour les évangiles, c'est nettement moins précis. Et donc, c'est le travail du bois. Hein. Le charpentier, il s'occupe du travail du bois. Mais ça implique aussi toutes sortes de compétences pour d'autres travaux, pour tout ce qui est relié à l'édification d'une maison en général. Donc c'est Jésus le charpentier. Et Joseph, alors, on en a touché un mot il y a quelques semaines, il n'est plus là, il est sans doute décédé depuis un certain temps. C'est Jésus le charpentier, et pas l'un de ses frères, parce que c'est à l'aîné que revient la succession. Non. L'atelier de Joseph est donc revenu à Jésus, c'est maintenant l'atelier de Jésus. Jusqu'à ce qu'il parte prêcher sur les routes de Galilée pour un ministère qui dure autour de 3 ans, avant sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc Jésus et l'apôtre Paul avaient ceci en commun, c'est qu'ils avaient deux mains. Deux mains, c'est pas comme les miennes tout à fait, deux mains calleuses. Ils avaient en commun des mains rugueuses, les mains rugueuses des travailleurs manuels. Et donc, d'où cela vient-il qu'en France, surtout en France, on pense que les filières manuelles sont des filières pour des gens en échec. Jusqu'aujourd'hui, on pense ça. Et les gens ont intériorisé ça. L'Allemagne, la Suisse et d'autres pays de ce genre sont plus proches de Jésus que nous, sur ce plan-là, jusqu'aujourd'hui. Alors, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ? D'accord. Le frère de Jacques, Joseph, Jude, Simon, ou Joseph, Jude, Simon, ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ? Marc est le seul à mentionner les sœurs de Jésus. Alors nous prenons ces mots à la lettre, mais même si nous voulions suivre certaines traditions et écarter l'idée que Jésus est de véritables frères et sœurs, nous pouvons tous être d'accord sur un point. Jésus a partagé la vie de famille avec au moins 6 autres enfants. 4 frères, et comme il est dit, 6 sœurs, il y en a au moins 2, ça fait 6. Et avec lui, 7, famille de 7 enfants. N'est-ce pas le charpentier ? Et les autres, on va dire. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils pensaient. Sauf sur un point, quand Jésus commence à attirer les foules, et qu'il commence à enseigner, à guérir, les frères ne croyaient pas en lui. C'est l'évangile de Jean qui le dit au chapitre 7, verset 5. Alors, il disait, il va trop loin. Vous avez tous entendu ça un jour dans vos familles. Il va trop loin, tu vas trop loin. Il sort du lot, donc. Il usurpe le rôle d'enseignant, de rabbin. Il dit, on est charpentier, on n'est pas rabbin. Enfin, en tout cas, il usurpe ce rôle. Il dit des choses qui rompent avec la tradition. Et donc les frères et sœurs de Jésus ont essayé de le ramener à une vie plus raisonnable. Et ils ont entraîné Marie dans cette démarche. On avait vu ça en Marc 3, 32. Il vient un moment, il vient une heure où Jésus n'est plus soumis à sa mère. Il n'est plus emprisonné par le regard de sa famille, de ses frères, des gens de son village. Il vient un moment où Jésus s'offre à son Père céleste dans son baptême pour entamer sa mission. Il s'offre à tous les hommes dans son ministère de salut. Et il va dire désormais, « Qui sont ma mère, mes frères ?» C'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui est mon frère, ma sœur, ma mère. On avait vu ça en Marc 3 aussi. Donc la Bible dit que Jésus a été tenté comme nous à tous égards. Alors, ne pas être compris dans sa famille, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est ne pas être compris dans sa famille. Et il sait ce que c'est devoir faire autrement que ce que la famille veut. Il sait ce que c'est que faire la volonté de Dieu en mécontentant ses frères et sœurs. Il crie, le Christ est devenu un être humain comme nous. Et c'est cela que nous contemplons sa gloire parfaite. Mais il y a autre chose. Quand les gens de l'époque disent que Jésus est de Nazareth, c'est souvent péjoratif. C'est méprisant. C'est dire qu'il sort du trou du monde, quelque chose comme ça. Et Nathanaël dit par exemple, que peut-il, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ? Jean 1, 46, sous-entendu, rien du tout. Il ne peut rien venir de bon de Nazareth. C'est un petit bourg de province, c'est loin de tout, c'est sans gloire. Et ça, Nazareth n'a rien du prestige de Jérusalem. Nazareth n'a rien du destin royal de Bethléem. Nazareth n'a rien de la richesse de Jéricho, rien de tout ça. Et c'est avec le même sous-entendu que l'on parle de Jésus comme le Galiléen. Traiter de Jésus de Galiléen, c'est pareil. La Galilée, c'est la province du Nord, c'est un lieu de passage des armées assyriennes, puis babyloniennes et syriennes. Donc, et Mèdes et Perses, et tout le monde est passé par là. Il y a eu un mélange de population, un mélange de cultures juives et grecques, c'est tout près des zones grecques, etc. Donc c'est une population qui a certainement des gènes un peu métissés, et en plus, ils ont un de ces accents. Ils ont aussi, donc, ils sont toujours soupçonnés de ne pas être très orthodoxes, et en plus, ils ont un accent à couper au couteau. On voit en Matthieu 26, 73, on dit que Pierre est certainement galiléen parce qu'il a un accent galiléen. Toi aussi, tu es de ces gens-là. Mais non. Mais si, son accent l'a trahi. Alors, comment imaginer qu'un prophète pur jus puisse venir d'un bourg aussi peu connu, venir de Galilée en plus Et en Jean 7, 52, quand Nicodème essaye de protéger Jésus, de le défendre, il a eu beaucoup de courage, eh bien, face aux pharisiens, on lui répond, « Serais-tu toi aussi de Galilée ?»« Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » C'était faux, il y avait Jonas, mais quand même. Et ça a été pire à un autre moment quand ils ont traité Jésus de Samaritain. N'avions-nous pas raison de dire, « Tu n'es qu'un Samaritain, Jean 8, 48. » Donc on a traité Jésus de tous les noms. Et on a usé de mépris envers lui. Et c'est toujours le même mépris qu'on rencontre. On ne juge pas Jésus pour ce qu'il fait, ou pour ce qu'il a dit, ça serait une bonne chose, mais on le juge sur ses origines. Et il y a un mot pour ça en français, c'est le mot « discrimination », qui est très à la mode, à bon droit. Si tu as un nom ou un prénom pas très gaulois, on va dire, si tu viens d'un mauvais quartier, il y a des mauvais quartiers dans toutes les villes, si tu as un accent étranger ou un accent paysan, rural, ton compte est bon. On sait des préjugés. Et il nous faut faire un grand effort de volonté pour nous affranchir de ces réflexes qu'on a, de ces préjugés. Alors ce qui nous motive, je crois, pour progresser dans cette lutte contre les préjugés, c'est la parole du Seigneur Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faites aux autres ce qu'on voudrait qu'on vous fasse aussi. Et ces deux paroles nous aident hein, chaque jour. Alors, on admire le parcours du Seigneur, le parcours que Jésus a suivi. Il ne passe pas, on va dire aujourd'hui, on va faire une version hein, en renéen courant. Hein. Il ne passe pas par Neuilly-sur-Seine, hein. Il passe par la Seine-Saint-Denis. Hein. Il passe par le 9-3. Hein. Voilà ce qu'il a fait en passant par Nazareth. Alors, il faut ajouter aussi que Jésus a dit que nul serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, s'ils m'ont appelé Nazaréen, on va dire, ils vous persécuteront aussi, ils vous appelleront aussi Nazaréen. Hein. Jean 15, 20, hein, j'ai ajouté Nazaréen. Nous sommes tous des Nazaréens, si nous sommes disciples de Jésus, nous sommes tous, un jour ou l'autre, traités avec mépris comme il l'a été. Hein. Avec l'annonce de l'Évangile dans le monde, on ne savait pas trop comment appeler les disciples de Jésus. En Antioche, on les a appelés chrétiens, Actes 11, 26. Hein, c'est pas mal, hein. On les reconnaît pour les disciples de Jésus, pour ceux qui appartiennent à la famille de Jésus. Mais il paraît que là aussi, c'est un terme, ça pourrait être un terme méprisant. Hein. Mais dans les lieux de pouvoir, à Jérusalem ou à Césarée, on parle plutôt de la secte des Nazaréens. Acte 24, 5. Hein, et tous ces gens qui appartiennent à la secte hein, des Nazaréens. Déjà le mot aujourd'hui à garder hein, son texte, sa valeur hein, péjorative, et Nazaréen en plus. Hein. Donc la honte, hein, la honte qui était sur Jésus, elle est sur ses disciples, hein, très vite. Hein. Alors le disciple de Jésus est toujours, hein, quelque part, persécuté, il partage la honte hein, de son maître, hein, de son Seigneur. Alors en ces débuts d'année, on a cité beaucoup de psaumes, mais on n'a pas cité encore le psaume que je voulais citer. C'est le psaume 120. Alors, j'aime bien citer en début d'une nouvelle année un texte qui se termine par l'année. Donc, après 17, 18, 19, nous arrivons à 20. Le psaume 120, c'est impeccable. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié. C'est le cri de quelqu'un qui se trouve au milieu d'un peuple barbare, qui se trouve parmi son peuple comme s'il était au milieu d'un peuple barbare plutôt. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié, il m'a répondu. Éternel, ai-je dit, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Plus loin, malheureux que je suis de séjourner à Méchec, hein, ça peut être dans le Caucase, hein, de demeurer parmi les tentes de Kédar en Arabie syrienne. Trop souvent mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pourtant pour la paix. Mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. Alors même s'il se trouve parmi son peuple, il se sent comme un étranger parmi son peuple, comme s'il était au milieu d'un peuple barbare, hein, qui ne le comprend pas. Et c'est la détresse de tout enfant de Dieu, de tout véritable croyant, hein, au cours des siècles. Hein. Et je conclue avec ce texte de Matthieu 5, 12, 10 à 12, où Jésus dit: heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à vous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, vous persécutera, qu'on répandra toutes sortes de mal à cause de moi. Hein. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans le royaume des cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc là, il y a trois sujets, hein, de consolation, de réconfort dans l'adversité. On peut être heureux dans l'adversité parce qu'il y a trois sujets de réconfort. Tout d'abord, ça veut dire, si je suis persécuté comme Jésus, j'appartiens à Dieu, ça veut dire. S'il est vrai que la persécution me frappe parce que je mène pourtant une vie droite et digne, si c'est le cas, hein, parce que des fois on est persécuté parce qu'on mène une vie indigne, mais dans ce cas-là, si je suis persécuté alors que je mène une vie droite et digne, une vie inspirée par celle du Christ, alors c'est une preuve certaine que j'appartiens à Dieu, que j'imite le Christ. C'est la certitude profonde que je suis enfant de Dieu. Et donc c'est une pensée réconfortante qui remplit alors mon esprit de calme et de sérénité dans l'adversité. Celui qui, à cause de son amour pour le Seigneur, constate qu'on l'évite, par exemple, ou qu'on lui manifeste une certaine froideur, ou qu'on le tient à l'écart de certaines choses, celui-là saura se réjouir d'être dans son être intérieur, hein, enfant de Dieu, d'être sûr, hein, d'être dans son intérieur un enfant, hein, du Dieu très haut. Hein. Et parce que nos paroles, notre vie sont l'expression de la vérité, et que cette vérité, quand elle est dévoilée, elle dérange, il se produit une sorte de clivage entre des individus, entre nous et les individus de notre, et des individus de notre entourage. Certains deviendront des amis très chers, heureusement. Certains deviendront des frères, hein, en Christ, dans la, des membres de la famille de Dieu. Mais d'autres, au contraire, chercheront à nous éliminer, hein, d'une façon ou d'une autre, à nous faire taire, hein, en adoptant une attitude agressive, injurieuse ou pleine d'ironie. Hein, l'ironie, on connaît ça. Donc cette béatitude nous apporte déjà une pensée réconfortante. Mais il y en a deux autres. Jésus dit « Notre récompense est grande dans les cieux ». Alors on peut penser, hein, à la vie à venir, où on sera récompensé, c'est vrai. Mais déjà ici-bas, hein, on est récompensé. Cette récompense, eh bien, je crois qu'avec Romains 5, on voit ce que c'est. C'est la promesse, je crois, de bénédiction associée à la persévérance en Christ. Celui qui persévère, eh bien, va gagner en patience. Hein. La persécution est l'occasion d'exercer sa patience, d'affermir sa foi. Donc, il va gagner en foi. C'est l'occasion de renforcer son attachement à Jésus-Christ. Il va gagner en intimité avec Jésus. L'adversité fait grandir donc notre foi, la connaissance de notre foi aussi, et la controverse nous force à mieux réfléchir à cette foi. Hein. Les moqueries nous invitent à savourer les promesses de Jésus-Christ, hein, comme on ne l'avait jamais fait avant. La haine des autres, des hommes, nous pousse à nous rapprocher, à nous accrocher à l'amour de Dieu. Et même la persécution, Jésus l'a dit, n'arrête pas la propagation de l'Évangile. On le verra dans d'autres textes bientôt. C'était vrai au temps des apôtres et c'est encore vrai aujourd'hui, hein, on le croit. Hein. Et puis troisième pensée consolante, les prophètes ont connu la même chose avant vous. Alors on peut penser à tous les prophètes, hein, les glorieux prédécesseurs, Jérémie et d'autres. Mais nous pensons surtout aux prophètes. Hein. Le prophète par excellence, Jésus-Christ lui-même, hein, qui a souffert la persécution, hein, la haine, le rejet, hein, qui a persévéré et qui a été jusqu'à la croix et ensuite Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Donc ça ne doit pas nous troubler d'être persécutés ou du moins de rencontrer l'opposition. Hein. C'est dans la suite normale des choses. Hein. Jésus l'avait annoncé, le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et puis en Philippiens, on avait lu aussi, hein, il est nécessaire bien sûr de souffrir pour le Christ. Ça fait partie de l'engagement chrétien. Et surtout, ça ne doit pas nous arrêter dans notre marche avec le Christ. Alors concluons, est-ce que nous portons l'opprobre, c'est un vieux mot français, hein, le mot honte, hein, est-ce que nous portons l'opprobre du Christ qui a été appelé Nazaréen? Est-ce que nous supportons la honte, on va dire, qui a été attachée à ce nom, hein? S'il a été appelé Nazaréen, je suis fier de porter la honte qui est associée au nom de chrétien aujourd'hui. Hein? On n'a pas le nom sobriquet de Nazaréen. Chrétien, ce n'est pas beaucoup mieux. Évangélique, hein? Fondamentaliste, tout ce qu'on veut. Hein? On connaît tous les istes possibles. On connaît à cause du Christ une certaine honte. Honte attachée à notre engagement chrétien. On l'appellera le Nazaréen. Donc on a vu que c'est à cause de cette consonance, hein, prophétique. Hein. On a vu aussi que ça lui donne une identité humaine précise qui a permis d'être notre sauveur. Mais ce nom de Nazaréen aussi l'a exposé au mépris. Hein. Ça fait partie d'un tout. Hein. Et nous aussi, hein, nous marchons dans la trace des prophètes, nous avons une identité chrétienne précise, mais nous sommes aussi exposés au mépris. Alors je contemple ce matin la gloire de ce Jésus-là, on l'appellera le Nazaréen. Et ce matin, en ces débuts d'année, je veux me lever, hein, pour, avec la force que me renouvelle l'Esprit Saint, pour renouveler mon engagement envers Dieu, et pour m'engager à porter son nom, hein, là où il m'envoie, sans honte, mais avec courage et avec la pleine certitude d'être un enfant de Dieu. Amen.